Très bien.
Parce que bon, j'ai rien d'intéressant à dire.
Pour arriver à la décroissance,
on bu de l'alcool et fumé du cannabis.
Tout avait commencé dans le calme.
Soupçonné d'avoir reçu des pots de vin, toujours au Proche-Orient.
Pas le moyen pour répliquer.
Eux, ils ont gaz lacrymogène.
Eux, ils ont les matraques, ils ont tout. Nous, on n'a rien, on a que les mains, on a que des pierres.
Un fasciste, la gangrène,
bonsoir à tous et à toutes. Nous interrompons ce petit générique. Nous avons décidé avec Laurent ce soir d'ouvrir cette émission en musique. C'est pas notre habitude, mais nous avons décidé de faire une petite dédicace. Dédicace
à Marc Augeret.
Et tu as donc choisi une chanson en particulier, c'est toi qui l'as choisi.
Ouais, ça s'appelle, ça va être donc le nouveau générique de cette semaine, Faut plus de gouvernement. Donc,
voilà, puisque Marc Augeret est décédé ce lundi 4 juin. C'est notre petite dédicace avec de la musique, parce que c'était un chanteur qu'on aimait beaucoup et qu'on va continuer à écouter, un militant, un engagé, un syndicaliste, enfin tout ce qu'on aime.
Et puis j'ai pas l'impression que les autres radios aient beaucoup passé de morceaux de Marc Augeret, donc on se rattrape. C'est parti.
Et on se retrouve après.
Voilà, faut plus de gouvernement. En plus, on est d'accord avec les paroles. C'est un morceau traditionnel.
À chaque coin de rue, le travailleur surpris, sur l'affiche se rue, des candidats de Paris. On voit beaucoup de promesses écrites sur le papier, mais le peuple ne vit pas de messe, alors ça le fait crier. Le gouvernement de Ferry est un système pourri. Cette floque et de Constance sont aussi dégoûtants. Carnot ni Boulanger ne pourront rien changer. Pour être heureux vraiment, faut plus de gouvernement. Le gros ventru congresse, le suffrage universel, vient vous battre la grosse caisse, comme Monsieur Giraudel. Il vous promet tout rose, mais quand il est élu, ça n'est plus la même chose, il vous tourne le cul. Certains énergumènes, débitants de discours, vous redisent les rengaines qu'on entend tous les jours. Moi je suis un homme intègre, moi je suis un érudit, mon copain est intègre, mais le populo leur dit. Le gouvernement de Ferry est un système pourri. Cette Floque et le Constant sont aussi dégoûtants. Carnot ni Boulanger ne pourront rien changer. Pour être heureux vraiment, faut plus de gouvernement. Même des socialistes, membres de comités, soutiennent des fumistes qui se portent députés. Y a pas à s'y méprendre, qu'ils soient rouges, bleus ou blancs. Il vaudrait mieux les pendre que leur foutre 25 francs. Tu leur paies les ripailles, toi peuple souverain. Et lorsque tu travailles, à peine as-tu du pain. Ne sois non plus si bête, au lieu d'aller voter, casse-leur la margoulette, puis tu pourras chanter. Le gouvernement de Ferry est un système pourri. Cette Floque et le Constant sont aussi dégoûtants. Carnot ni Boulanger ne pourront rien changer. Pour être heureux vraiment, faut plus de gouvernement. De toute cette histoire, voici la conclusion. L'électeur, c'est notoire, n'a pas toute sa raison. Je n'aime pas le fataliste, je n'ai ni foi ni loi. Je suis abstentionniste, ami, voici pourquoi. Gouvernement de Ferry est un système pourri. Cette Floque et le Constant sont aussi dégoûtants. Carnot ni Boulanger ne pourront rien changer. Pour être heureux vraiment, faut plus de gouvernement.
Allez, tu voulais remettre un petit coup de générique pour nous remettre dans la couleur du Canu Info, c'est loupé. Ça, nous étions en train de chanter pour tout vous dire. Hein.
Ah, voilà, voilà, c'est un morceau qu'on connaît par cœur.
Et oui, j'espère que vous aussi, chez vous, vous chantez, parce que nous, tout de suite, ça nous fait à la fois bouger les bras, chanter, ça nous rend heureux, vraiment, parce qu'on espère qu'un jour, il n'y aura plus de gouvernement. Enfin, on aime beaucoup voilà, cette chanson en particulier, mais on aime aussi les autres. Alors, c'était notre hommage musical.
Oui, tout à fait. C'est extrait d'un... Alors, il n'y a pas beaucoup de disques de Marc Augeret qui sont disponibles en CD, en fait, hein, le... parce que les disques sont assez vieux. Celui-là, il est disponible, il a été réédité au début, à la fin des années 80. Ça s'appelle Chanson contre, en fait. Et du coup, on a pas mal de morceaux traditionnels, notamment du 19e siècle, contre les patrons, contre l'Église, enfin contre les religions d'ailleurs, mais c'est contre l'Église à l'époque. Enfin voilà, c'est un très beau disque. On va donc parler quand même d'actualité dans ce Canu Info.
Puisque nous avons quand même un petit déroulé, donc on peut peut-être couper le générique maintenant. Laurent va nous emmener en Égypte, et si j'ai tout compris, c'est pas vraiment pour faire du tourisme. Vous connaissez notre passion pour le football et nous parlons donc de boycott. Voilà. Enfin, en tout cas, moi, j'appelle à des boycotts, des choses comme ça. Nous parlerons facho avec Laurent. Nous parlerons de deux profiteurs, hein, un chacun. Toi, tu as choisi Yves Rocher, moi j'ai choisi Lactalis, chacun ses petits profiteurs. Et puis nous irons du côté plutôt de l'énergie et de l'environnement. On vous propose un ouvrage à relire ce soir, puisque c'est un ouvrage qui date de 1998. Mais c'est toujours d'actu et ça s'appelle La prophétie de l'abeille et c'est un roman japonais. Et puis nous parlerons après de plein de choses. On ira en Allemagne, on parlera d'hydrogène et de chlordécone que nous aimons.
Un truc qui tue.
Un truc qui tue. Donc, eh ben nous commençons donc avec l'Égypte et donc ce n'est pas du tourisme.
Un autre truc qui tue, un peu comme voilà. Les pesticides. Et il s'appelle Monsieur El-Sissi. Donc oui, les autorités égyptiennes sont un petit peu fébriles en ce moment. Il faut savoir qu'il y a une négociation en cours avec le FMI. Et que ça arrive au bout, je vais vous expliquer les conséquences. En tout cas, durant cette période de fin de négociation, les autorités égyptiennes, toujours aussi autoritaires, ont procédé à l'arrestation de pas mal d'opposants, notamment certains étaient relativement célèbres. Le plus connu, c'est Hazem Abdel Azim. Donc, c'est un informaticien qui était devenu activiste politique contre les frères musulmans. Donc on se dit, tiens, c'est bizarre, il est contre les frères musulmans, et Abdel El-Sissi est plutôt contre les frères musulmans, hein, puisqu'il a fait virer de force le président précédent élu, mais qui était du côté des frères musulmans. Et ben non, parce qu'il est à la fois opposant aux frères musulmans et au président dictateur Abdel Fattah El-Sissi. Du coup, il avait été, même s'il a été proche hein, de El-Sissi un petit moment, et il a trouvé que finalement ça dérivait un petit peu. Donc il a été accusé, comme souvent, de publication de fausses informations de nature à nuire à l'État égyptien, c'est l'accusation traditionnelle pour faire enfermer les opposants politiques. Cette accusation, ça pèse sur aussi sur les journalistes, les blogueurs, les activistes et même de simples internautes qui posteraient des commentaires négatifs, notamment sur les réseaux sociaux. Et ça concerne pas que les Égyptiens, puisque une journaliste française, j'en parlerai tout à l'heure, enfin dans quelques minutes, elle aussi fait les frais de ce genre de pratiques dictatoriales ou autoritaires, vous appelez ça comme vous voulez, qui se pratiquent aujourd'hui en Égypte avec le soutien de pas mal de pays, notamment de M. Macron et de la France, puisque M. Macron et la France sont très amis avec le dictateur égyptien. Voilà. Alors, il y a pas mal de manières de faire, en fait, de la part du régime égyptien aujourd'hui. Il y a les arrestations, comme je viens de vous parler avec une des dernières en date. Il y a aussi les actes d'intimidation. Alors, on a un exemple très récent qui est arrivé hier. Il y avait une réunion d'opposants, d'intellectuels, de journalistes libéraux de gauche qui étaient réunis au club suisse du Caire pour un iftar, le repas marquant la fin de la journée du jeûne durant cette période de Ramadan. Et ben lors de ce repas, de rencontre de gens qui sont libéraux, ils ont été attaqués par un groupe d'inconnus qui les ont accusés de trahison. C'est donc bien évidemment une attaque politique. Alors, bien sûr, c'est pas les forces de police directement qui attaquent, ce sont les milices ou les amis de M. El-Sissi qui font ce genre d'action. Il y en a beaucoup aussi, il n'y a pas que les forces officielles de police qui luttent contre les opposants politiques. Il y a ces gros bras qui sont embauchés par le gouvernement pour attaquer les opposants, pour les intimider, parce que c'est l'autre manière de faire. Et alors, on notera aussi d'ailleurs qu'il y a une partie des avocats qui sont classés officiellement indépendants, qui sont porteurs des plaintes contre certains journalistes, contre certains blogueurs. Donc ils sont le relais en fait de l'État, le bras armé de l'État. Donc il y a une espèce de trahison assez importante de tous côtés contre la démocratie ou l'idée de démocratie qui a pu émerger un tout petit peu il y a quelques années en Égypte et qui a totalement disparu avec la prise de pouvoir autoritaire de Monsieur Al-Sisi. Voilà. Alors. Ça, c'est l'attitude traditionnelle du coup de bâton, on va dire, du président de la mine, M. Macron. Mais il y a aussi autre chose. Il y a les petites carottes qu'il donne. On va vous appeler ça comme vous voulez. Je ne sais pas si c'est des carottes en Égypte. Ce n'est pas vraiment des carottes. Enfin, il donne des petits trucs. Alors, par exemple, il vient d'avoir une augmentation de salaire des fonctionnaires de l'État et du secteur public de 15%. Pas mal. Et puis, la quantité de produits subventionnés, c'est les pauvres Égyptiens ont droit à des cartes de rationnement, d'approvisionnement, et ils ont droit à ces produits rationnés. Et bien ça, il y en a beaucoup plus. Donc ça concerne l'huile, le sucre, et puis bien évidemment, le plus important, c'est pas les carottes, c'est le pain. Alors on se dit, voilà, le régime joue sur les deux côtés. On tape sur les opposants et on achète un peu le peuple en donnant des miettes, en fait, hein, bien évidemment, puisque ce n'est que des miettes. Alors pourquoi il y a tout ça? Parce que dans les négociations en cours avec le FMI, alors il faut savoir que l'Égypte a besoin d'argent, donc ils ont demandé un prêt de 12 milliards de dollars au FMI, et qu'en échange, le FMI, qui est un organe qui prête de l'argent, mais en échange de pratiques libérales, a dit, eh ben, il y a des choses qui vont pas bien dans ce que vous faites, notamment dans la régulation du prix du carburant, qui est artificiellement bas en Égypte. Donc ils ont demandé à ce que le carburant ait un cours classique, donc qui va remonter, ce qui va énerver les Égyptiens. Donc voilà pourquoi le président dictateur Al-Sisi donne des petites miettes aux fonctionnaires et à la population la plus pauvre. Alors, si on regarde, il y a une deuxième vague, alors une deuxième manière d'agir du gouvernement, on arrête les gens, il y en a qui sont condamnés, il y en a qui sont pas condamnés, mais au bout d'un moment, on s'en débarrasse, on les relâche. Alors, on les assassine pas, on les relâche. Et là, monsieur Al-Sisi a annoncé 712 prisonniers qui vont être graciés. Oh là là. Alors, il les a arrêtés, ils ont été malmenés dans les prisons, tout ça, et puis, on en relâche une partie. Pourquoi ? L'idée, c'est bien de faire pression en disant, voilà, on vous a donné une chance, maintenant fermez vos gueules. Donc ça, c'est aussi l'attitude du gouvernement. Puis pour terminer, toujours sur l'Égypte, c'est cette fameuse journaliste, enfin fameuse, elle n'était pas fameuse, mais qui avait été correspondante du journal La Croix, journal français, au Caire entre 2009 et 2013, qui avait donc fait pas mal d'articles sur les contestations en Égypte, qui venait en Égypte, donc c'était hier ou avant-hier, mais en vacances. Bon, après, c'est ce qu'elle dit, peut-être qu'elle faisait aussi enquêter, mais au départ, elle partait en vacances. Ils l'ont chopée à la douane, ils l'ont dit hop, hop, hop, hop, hop, ils l'ont posé des questions. Elle a appris qu'elle figurait sur une liste noire des gens interdits, des journalistes interdits. Ils l'ont remis dans un avion directement pour qu'elle rentre dans son pays. Donc voilà ce qui se passe aujourd'hui en Égypte. Ça concerne les Égyptiens en premier, bien sûr, qu'en prennent plein la gueule, mais ça concerne aussi les étrangers qui voudraient venir et qui sont repérés comme étant amis ou proches de l'opposition politique.
Alors, vous connaissez notre passion pour la compétition, notre passion pour la compétition sportive, notre passion pour la compétition sportive nationaliste et donc notre passion pour la prochaine Coupe du Monde de football qui arrive. Oui, vous connaissez notre passion pour tout ça. Donc, j'ai trouvé pour ce soir deux nouvelles raisons de boycotter cette Coupe du Monde de football en sachant que je pourrais faire trois émissions.
Oui, rien que sur ça.
Rien que sur ça. Ouais. Mais j'ai trouvé deux raisons. Alors, vous avez très certainement entendu parler, parce que tout le monde en a parlé, de cet appel à boycotter, à empêcher l'équipe de football d'Argentine, l'équipe nationale, de se rendre en Israël pour un match amical. Alors, je vous rappelle qu'avant la compétition, on fait joujou, on se rend compte amicalement. L'idée, c'est de s'entraîner. Il y a eu une campagne très intense, sur en particulier les réseaux commerciaux, pour demander aux joueurs argentins de ne pas se rendre en Israël, pour appeler tout le monde à empêcher que ce match ait lieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, on a appris que l'équipe argentine n'irait pas donc en Israël pour ce match de joujou d'avant-compétition. C'est une décision de la Fédération argentine qui a fait évidemment beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit. Alors, du côté de la Fédération argentine, pour son président, monsieur Tapia, on explique que c'est une contribution à la paix dans le monde. Il faut dire qu'il y a eu beaucoup de propos extrêmement violents hein, du côté de ceux et de celles qui voulaient empêcher cette équipe argentine de se rendre en Israël. À juste raison, hein, oui, qu'il fallait empêcher
fallait
ça, mais on a eu quand même des choses assez horribles qui ont été faites, des photomontages assez moches avec leur star nationale, avec du sang dessus, du maillot. Certes, l'État israélien produit du sang, hein, il y a une jeune infirmière qui venait
de se faire assassiner,
secourir des gens et qui a été assassinée par l'armée israélienne, donc certes on est d'accord, mais c'est vrai que c'est toujours parfois un peu virulent, violent et assez brutal, et on va dans la haine,
oui, du coup, c'est
et la haine du juif. Ouais. Donc de l'antisémitisme, et c'est bien ça le problème.
Surtout qu'il y avait des raisons politiques, comme tout tu viens de le dire, et qu'il y avait un argumentaire qui pouvait être vraiment expliqué et amené au même résultat sans passer par ces...
En tout cas, la chose est faite. L'équipe d'Argentine de football n'ira pas donc rencontrer l'équipe israélienne sur son territoire. Nous allons revenir sur le pourquoi et le comment. Hein, mais donc la Fédération israélienne de football a décidé de déposer une plainte auprès de la FIFA. Je vous rappelle, c'est le grand Manitou du football dans le monde. Absolument sans corruption, propre et tout. La FIFA, vous savez, c'est une belle organisation. Voilà. Donc la Fédération israélienne accuse la Fédération palestinienne de terrorisme footballistique.
C'est un nouveau concept.
C'est pas mal. Et monsieur Netanyahou qui est en tournée. Ouais. Je vous le rappelle, a même, paraît-il, appelé le président argentin, monsieur Macri, pour tenter de faire changer d'avis la fédération de football. On sait qu'il y a des liens, hein, forcément, entre les fédérations de foot locales, nationales, et évidemment les gouvernements en place. Ça, on est bien au courant. La transparence n'existe pas trop sur ces questions-là. C'est pas très propre, voilà, hein, dans un certain nombre de pays. Alors, ce qui est très, très. Alors, on en a beaucoup parlé. Mais pourquoi j'insiste et pourquoi j'enfonce le clou? Parce qu'il faut savoir que du côté d'Israël, on a un peu quand même mis les deux pieds dedans le caca. Il faut savoir qu'à la base, cette rencontre, elle était prévue à Haïfa. Et qu'ensuite, à la demande des autorités israéliennes, elle a été déplacée, où ça? À Jérusalem. Donc là, c'était évidemment de marquer le coup hein, pour les autorités israéliennes et de faire en sorte que on rappelle qu'il y a eu une reconnaissance comme capitale d'Israël avec le transfert de l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Jérusalem le 14 mai dernier. Et donc l'idée, c'était de dire, regardez, ça c'est le centre de chez nous, et regardez comme on veut que ce lieu il soit symbolique et beau. Et alors là, je tends quand même le pompon de la cagnotte qui a tout gagné à la ministre de la Culture israélienne. Alors elle, déjà, elle voulait faire des listes noires des artistes qui ne lui plaisent pas, qui sont a priori trop à gauche.
Tu veux dire en Israël?
En Israël, ouais. Mmh. Alors elle, c'est quelque chose quand même. À chaque fois, elle voulait faire des listes noires. Elle a coupé des subventions à tout ce qui est très trop de gauche. Ou bon, elle a l'air un peu homophobe hein, quand même. Il faut un peu le dire. Donc elle a l'air très famille, hein, très conservatrice hein, quand même. Donc c'est pas quelqu'un que nous apprécions beaucoup ici. Et c'est son ministère qui a déboursé le pognon pour que ce match puisse être transféré de Haïfa à Jérusalem. Hein, donc c'est bon, ça passe par la culture.
Ouais, c'est
chouette. Alors évidemment madame Miri Regev, elle dit qu'elle est liée pour rien, que non, la main sur le cœur hein, comme dans le football quand il y a les hymnes, tout va bien, c'est pas leur faute, c'est la faute des méchants palestiniens. Alors elle a même utilisé Lionel Messi, donc la star du côté des Argentins, qui elle a dit que donc il venait en Israël et qu'il allait embrasser le kotel, c'est le mur hein, des lamentations. C'était un peu, enfin, elle l'avait mis en avant. Alors lui, il a rien demandé, hein, Lionel Messi, a priori. C'était vraiment, on était dans la propagande hein, politique touristique, hein, là, pratiquement. Donc elle dit que ça, c'est pas vrai, qu'elle y est pour rien, qu'elle a pas mis les deux pieds dans le caca et qu'elle a pas fait monter la sauce. Hein. Bon, on peut se penser que si ça avait eu lieu à Haïfa, ça serait peut-être pas passé de cette manière-là. Ça aurait peut-être eu lieu, hein, la demande de boycott, d'annulation, mais ça se serait peut-être pas passé avec une telle importance et surtout une telle réussite. Hein. Elle a dit, cette brave ministre, que le coupable était identifié. Elle a dit, il s'agit d'un vieux nouveau terrorisme qui effraie, dissuade et terrorise les sportifs, le même terrorisme qui a provoqué le massacre de Munich. je rappelle que c'était en 72, ouais, que des gens sont morts, que c'était terrible, hein, il faut bien le dire. Mais enfin, elle va loin, cette madame de la culture, cette madame la ministre. Alors, du côté des Palestiniens, c'est pas mieux, parce que là, je veux dire qu'on s'est frappé le torse de tous les côtés pour dire oh, ah, on a gagné. Au niveau des autorités, c'était pas non plus très très malin. Il faut savoir que, quand même, du côté des autorités palestiniennes, ça fait un moment qu'on s'adresse à la FIFA pour demander le retrait d'Israël des compétitions internationales, pour la simple et bonne raison, c'est qu'il y a des équipes israéliennes qui sont dans les colonies.
Oui, et puis ils empêchent le football palestinien de se développer.
Voilà, donc la FIFA a fait une réponse en bonne organisation Manitou du foot qui la représente bien. Nous allons rester neutres.
Ouais, super.
La neutralité était importante. Donc, globalement, bon, c'est bien que cette rencontre n'ait pas lieu à Jérusalem. C'est vrai qu'elle a amené de la haine et des propos largement disproportionnés. Maintenant, il y a aussi des gens qu'il ne faut pas oublier qui ont mené une belle campagne pour empêcher cette rencontre, et c'est plutôt bien. Ça, c'était mon boycott numéro 1. Boycott numéro 2. Ouais. Bah, je t'ai dit que j'avais plein de raisons, mais j'en ai trouvé deux quand même pour ce soir, excuse-moi. Oui, je t'avais pas prévenu. Vous savez donc que ça commence le 14 juin prochain, que ça se passe en Russie. Et que,
un beau pays,
bien libre aussi, hein. Je rappelle que Vladimir Poutine, monsieur Poutine, a un régime autoritaire, et que pour cette Coupe du Monde, depuis le 25 mai, dans 11 villes qui accueillent la Coupe du Monde, il y a tout un tas de restrictions. Ça va courir jusqu'au 25 juillet prochain. Alors déjà, habituellement, quand il n'y a pas les restrictions, les opposants, les opposantes, quand vous secouez le petit doigt, vous vous faites taper sur la gueule, emprisonner, arrêter, envoyer au goulag. Hein. Alors là, je vous explique pas. Avec ces nouvelles réglementations, c'est un peu la galère. Et ben, il y a des gens qui osent s'opposer à cette Coupe du Monde incroyable en Russie. Il faut savoir qu'il va y avoir une fan zone assez énorme à Moscou, alors, parce que la place rouge n'est pas assez grande. Donc il y a une fan zone qui devrait rassembler jusqu'à 42 000 personnes. Donc c'est un lieu pour accueillir les supporters, ça va être super bien. Et cette fan zone, elle va être mise où ? Eh bien, accolée à la plus belle des universités de Moscou. Hein, accolée. Alors il paraît qu'il y avait un écran de 40 mètres de haut, qui était accolé à un des immeubles. C'est un lieu un peu patrimonial, on pourrait dire ça comme ça en France, en Russie on parle pas comme ça, mais qui est un lieu qui a été construit sous Staline. Et alors donc l'écran était, paraît-il, collé à un des bâtiments. Il y a aussi des lieux de résidence, hein, juste à côté. Donc il y a des professeurs, des étudiants et des étudiantes qui se mobilisent. Ça fait pratiquement un an, hein, qu'ils savent qu'il y a cette fan zone qui est prévue ici. Et ça a amené des arrestations, puisqu'il y a eu un panneau qui a été tagué en rouge. Attention, j'ai vu la photo du panneau, un truc de fou. Nous, on a plus de tags dans la rue ou à la radio que sur le panneau. Hein. Un truc de... Puis alors, un pauvre panneau bleu, hein, vous voyez, un truc qui vous dit il faut aller par là et par là. Un panneau qui disait pas de fan zone, stop à la fan zone. Hein. Attention, là aussi, le propos était quand même violent. Toujours est-il que nous, on en rigole ici, mais en fait, c'est pas drôle, puisqu'il y a des étudiants qui ont été convoqués par la police, qui ont subi 12 heures d'interrogatoire. Donc, au-delà de l'amende et des travaux d'intérêt général qui pourraient peut-être être portés contre eux, il y a quand même 3 ans de prison pour vandalisme. Hein, ouais, qui pourrait être retenu. Je vous rappelle que le vandalisme en Russie, ça rigole pas. Donc, pourtant, il y a des pétitions, hein, qui sont lancées pour empêcher donc cette fan zone d'exister. Il y a des étudiants, des étudiantes qui ont manifesté, qui sont fait virer, tout simplement. Et il y a des gens en plus qui sont des supporters de foot, mais qui disent c'est notre période d'examen. Oui, il y a toujours partout dans le même problème. Hein, il y a toujours les problèmes d'examen. Et qui comprennent pas bien pourquoi on leur met une fan zone au milieu de leur lieu de vie aussi. Alors il faut savoir que dans certaines villes hautes, il y a même des étudiants à qui on a demandé de bien vouloir quitter leur dortoir et leur logement pour pouvoir placer à la place les policiers anti-émeute.
Ah bah oui.
Donc apparemment, ce que j'ai pu en comprendre, c'est qu'à Moscou, on leur a demandé de faire les examens dans une période très très courte, avant le 14 juin, pour pouvoir entamer tout ça. C'était donc ma deuxième raison de boycotter la Coupe du Monde, puisque quand des gens se font taper dessus, emprisonner, et risquent quand même jusqu'à 3 ans de prison pour avoir peut-être tagué un pauvre panneau avec une couleur rouge, ça mérite pas le coup de passer du temps à bouffer des chips devant des matchs.
Alors j'attaque ma petite rubrique Les Fachos, avec 3 petites informations. La première, elle nous vient d'Italie, puisque l'Italie s'est donc finalement dotée de son gouvernement de coalition.
Finalement, on aurait pu attendre. Ouais. Ça valait pas le coup.
Le gouvernement s'est finalement formé avec Paolo Savona, l'économiste anti-euro, qui avait été refusé par le président Mattarella au poste de ministre des Finances et qui a finalement été nommé au ministre des Affaires européennes. Aux finances, c'est Giovanni Tria, un économiste qui au départ était libéral et qui depuis est eurocritique, favorable à une relance des investissements avec la création monétaire. Voilà, c'est ceux qui croient que quand on dévalue, on gagne à tous les coups. Donc du coup, voilà, qui fait une politique un peu qu'on pouvait faire au XXe siècle, quoi, avec les conséquences qu'on connaît. Ça n'a jamais été très efficace non plus. Ça veut dire qu'il valide le capitalisme quoi qu'elle arrive. En fait, la solution, elle est de sortir du capitalisme. Et lui, il veut faire un capitalisme différent. Donc, depuis cette nomination, donc c'était le 1er juin dernier, vendredi, si ma mémoire est bonne, grosso modo, il y a quand même un truc un peu bizarre. C'est que c'est la Ligue, donc le parti d'extrême droite de Matteo Salvini, qui dirige tout. Qui impose tout, qui semble le maître mot, le maître en fait de tout ce qui est en train de se passer. Et pourtant, c'était le mouvement 5 étoiles, de l'autre qui est censé être de l'autre côté, mais en fait, quand on s'allie avec l'extrême droite, c'est qu'on est d'extrême droite, hein, faut pas non plus raconter des conneries, qui est plutôt au second plan. Donc voilà, c'est un petit peu bizarre ce qui est en train de se passer en Italie. En tout cas, on a déjà pas mal de petits échos, puisque c'est à Vicenza, ça doit être dans le sud, voire en Sicile, que Matteo Salvini a redit cette belle phrase. Le bon temps est fini pour les immigrés clandestins, préparez-vous à faire les valises. On dirait du Gérard Collomb, hein ? Oui, qui est proche de l'extrême droite, c'est dans les discours aussi. Mais voilà, ça semble mal parti. Le ministre de la Famille a l'air bien aussi, c'est Lorenzo Fontana. Donc c'est quelqu'un qui est aussi de la Ligue, donc mouvement d'extrême droite. Donc il a redit son opposition à l'avortement. Donc c'est bien parti. Même si, a priori, ils ne vont pas remettre en cause le droit à l'avortement, en tout cas, ce n'était pas prévu. Mais lui, il a dit que il ferait tout quand même pour limiter le droit à l'avortement, car il est catholique. Il a dit, je ne le cache pas, je suis catholique. Et donc, quand tu es catholique, tu es forcément contre l'avortement, le droit à l'avortement. Pardon. Donc voilà, ça a énervé un peu les féministes italiennes, qui rappellent quand même que malgré l'autorisation du droit à l'avortement, en Italie, à cause des idées religieuses trop implantées, les 70% de gynécologues du secteur public refusent de pratiquer l'avortement. Du coup, il reste que 30%, donc quand les femmes veulent se faire avorter, c'est la croix et la bannière, pour reprendre une image religieuse, pour arriver à trouver un gynécologue qui sera prêt à le pratiquer. Et il se retranche, bien sûr, derrière cette horreur qu'on appelle l'objection de conscience. Ça permet à tous les fachos religieux, tous les intégristes, tous les extrémistes, de ne pas faire des choses. Et puis, il a rappelé qu'il était homophobe, qu'il détestait les homosexuels, puisqu'il a redit la famille naturel, c'est un papa, une maman et des enfants. Point. Voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous êtes en Italie et que vous êtes LGBTI, vous allez en chier. Bon courage à vous, la lutte continue. Un petit mot sur Lyon maintenant, et toujours en lien avec les fachos. Ça change un petit peu, c'est l'union locale CGT du 9e arrondissement qui a eu droit à ces petits tags, essentiellement des croix celtiques. Donc un des emblèmes de l'extrême droite, tagué sur sa devanture. Voilà. Bon, ça a été depuis effacé, mais voilà, c'est pour rappeler que les fachos sont malheureusement toujours là à Lyon. Et puis, je vais vous lire un petit truc, un petit trac qui s'appelle La réalité de nous. Alors, ça s'appelle Pour que la France reste la France. Et je cite.
Tu aurais juste pu dire que sur les pentes de la Croix-Rousse, les habitants et les habitantes ont eu dans leur boîte aux lettres des petits documents pour dire ce qui était en train de se passer.
Avec l'extrême droite.
Je trouve que c'est très très bien d'avoir eu cette initiative et de raconter ce qui se passe. Voilà. En tout cas, je salue l'initiative, c'est tout.
Donc je vais lire mon petit tract, enfin une partie qui s'appelle Pour que la France reste la France. Si ça vous concerne, écoutez bien quand même. On va vous apprendre plein de choses. La réalité de notre pays, deux points. Il n'y a jamais eu autant d'impôts. Emmanuel Macron les augmente de chaque année de 4,5 milliards d'euros. CSG sur les retraités, gaz, fuel, essence, etc. Il n'y a jamais eu autant d'immigrés. Et Emmanuel Macron laisse entrer un nombre d'immigrés jamais vu depuis 43 ans et nous disant que c'est une chance. Il n'y a jamais eu un tel risque terroriste. Et Emmanuel Macron nous sort de l'état d'urgence, refuge la déchéance de nationalité et n'a expulsé que 20 étrangers islamistes en un an. Il n'y a jamais eu une telle pression communautariste. Emmanuel Macron refuse de défendre la laïcité, affirme qu'il n'y a pas une culture française et fait l'éloge de la diversité. Il n'y a jamais eu une telle flambée de délinquance. Enfin bon, moi je pourrais continuer comme ça, hein, ça va juste loin. Très très loin. Donc c'est pas un tract du Front National ou du Rassemblement nazi, national, Rassemblement National, le nouveau nom du Front National. Non, c'est un tract distribué à 1,5 million d'exemplaires des Républicains de Monsieur Wauquiez. C'est la classe. On est dans les pures phrases racistes, fascistes et le discours traditionnel en fait de l'extrême droite, hein, avec que des mensonges, puisque on n'a jamais eu un gouvernement qui mettait autant en œuvre les idées de l'extrême droite sur l'immigration. Pourtant, ça plaît encore pas aux amis et à M. Wauquiez et à toute la bande. Enfin voilà, donc c'est un beau tissu de mensonges digne du FN ou du Rassemblement machin là. Mais non, c'était les Républicains qui ont pris une nouvelle voie de essayer de remplacer le Front National. C'est mal parti.
Alors, c'est moi qui vais commencer avec les profiteurs. Les profiteurs, je vous rappelle que ce sont les petits et grands capitalistes de ce monde qui font du profit, donc, hein, ça c'est logique. Donc c'est moi qui commence avec monsieur le PDG de Lactalis, monsieur Emmanuel Beignet, qui aujourd'hui était donc convoqué par une commission de l'Assemblée nationale. Il faut se souvenir que monsieur Beignet avait refusé en janvier dernier de se rendre devant une commission du Sénat. C'était une commission des affaires économiques, hein. C'était en janvier dernier, il avait été absent. Foot, pas là. Alors, je vous rappelle la petite affaire avec Lactalis.
Il devait peut-être être occupé, non ?
Oui, tu sais, je vais le dire tout de suite, mais ce qu'il a mis beaucoup en avant dans cet entretien du jour, cette convocation, c'est sa discrétion.
On ne peut pas leur enlever ça. Lactalis, ils ont toujours tout fait par derrière, de manière très discrète.
Ah, puis, alors, M. Beignet est quelqu'un de très, très discret. C'est un peu comme chez les Auchan, si vous voyez. Chez les Musiès. Donc, où en étais-je ? Donc, il a été convoqué, ce fameux PDG de Lactalis. Je vous rappelle qu'il y a eu une très belle affaire, puisque dans l'usine de la Mayenne, il y a eu une contamination avec des salmonelles, et que donc, ça a touché 36 nourrissons. D'autres cas ne sont encore pas avérés, mais pour ce qu'on en est sûr, est-ce que pour l'instant et qui est reconnu comme tel, c'est 36 enfants.
Une contamination qui est accidentelle, ça arrive de partout, sauf que...
Répétitive et cachée.
Voilà, sauf qu'il y avait des alertes, plein de choses, et ils n'ont pas pris les mesures nécessaires et ils ont surtout prévenu personne, tant que c'était pas, ça n'a pas été médiatisé. Alors, de manière indirecte et pas par eux.
Alors, pour la petite affaire, il était a priori entouré de Jean Claudel, directeur de la plateforme Lactalis Logistique, de Philippe Laborde, de directeur industriel du groupe, de d'Arnaud Bouenard, directeur général de la division Lactalis Nutrition Europe, et de Monsieur Nallet, son directeur, porte-parole, directeur de la communication, je cherchais exactement son appellation. Il n'y est pas allé tout seul, hein, un grand PDG qu'il est, Monsieur Beignet. Alors, il était attendu au tournant. Je vais vous citer un petit peu les questions qui ont été portées par le rapporteur de la commission d'enquête, le député Monsieur Grégory Besson-Moreau. Je cite. Quelles ont été les étapes des retraits ? Rappel, comment avez-vous informé l'État et la grande distribution ? Quand les produits incriminés ont-ils été détruits ? Quelles lacunes ou obstacles avez-vous constaté dans vos procédures ? Pourquoi a-t-il fallu attendre le décret pris par le ministre de l'Économie du 9 décembre pour que vous réagissiez ? Et surtout, pourquoi avez-vous continué à livrer vos produits incriminés jusqu'au 21 décembre ? Quelle responsabilité personnelle porte le PDG d'un groupe atteint par des cas de salmonellose en 2005, puis en 2010, puis avec cette crise de 2017, sans parler des ennuis judiciaires futurs le 25 juin avec la fromagerie qui a pollué l'Isère? Pourquoi n'avoir pas communiqué immédiatement? Avez-vous conscience des risques pris pour les jeunes enfants? Je reprends ma respiration. Alors, moi, j'étais pas là-bas. J'ai lu à peu près toute la presse et tous les comptes rendus possibles, et tout le monde relate une chose, c'est qu'il s'en est pris plein la gueule, monsieur Beignet.
Ce qui était mérité, du coup.
Il a un peu regardé ses chaussures, en grand PDG d'une multinationale qu'il est. Globalement, il s'est défilé. Je vous le dis tout de suite, je ne vais même pas vous donner ses réponses. Elles ne servent à rien. Elles sont à la fois techniques et sans intérêt. Alors, ça a énervé tout le monde, puisque nous avons le président de la commission, monsieur Christian Hutin, et monsieur donc Grégory Besson-Moreau, dont je viens de vous parler, le rapporteur, qui lui ont dit à un moment, ça ne va pas. Ça, c'est, je crois, Christian Hutin qui lui a dit, ça ne va pas. Vous ne répondez pas. Vous lisez vos communiqués. Répondez-nous. Vous essayez de torpiller cette commission d'enquête par tous les moyens possibles. Et Grégory Besson-Moreau d'insister. insister, hein, de dire aussi. Nous vous avons posé des questions claires et dirigées. J'ai besoin de réponses précises. Répondez avec du concret, pas en lisant vos notes. Surtout à cette question, pourquoi la GMS, hein, la grande distribution, a-t-elle reçu après le 21 décembre des lots contaminés, hein? Et tout le long comme ça, il y en a un autre, un député, Richard Rameau, c'est insupportable, vous parlez de votre discrétion, mais c'est de la non-transparence. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il y a eu des questions extrêmement précises, très claires, qui lui ont été formulées à ce PDG de multinationales. Il n'y a répondu qu'à moitié, voire pas du tout. Très technique, c'est jamais de notre faute, on n'y est pour rien, c'est un accident, oh là là, c'était pas prévisible, non, on savait pas, oh, on n'y est pour rien, et je tiens encore une fois à m'excuser. Alors je peux vous dire que...
Il s'excuse beaucoup quand même.
Alors, au début, je te rappelle qu'il a surtout rien dit. Il a fallu attendre les excuses. C'est aussi ce que tout le monde lui a reproché. Il semblerait qu'il y a eu un changement de stratégie quand même auprès de Lactalis, qu'on lui ait dit Monsieur Beignet, il va pas falloir continuer à fermer votre bouche. On va perdre du marché. Il y a des gens qui sont en colère. Il y a des... Ça touche quand même les petits-enfants. Hein. Mmh. Donc là, il y a des familles qui sont en colère. Je vais vous passer un petit peu tout le truc. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, Lactalis a tout fait pour empêcher cette commission d'exister. Il y a eu une tripotée d'avocats qui a priori se sont emportés contre ces députés qui ont formé cette commission parlementaire, et ça lui était aussi beaucoup reproché, hein, pendant cet entretien à monsieur Beignet, de vouloir en fait contrecarrer la justice et les questions des parlementaires, puisque je rappelle qu'il y a la justice qui est prise dans cette affaire. En avril, donc, les avocats avaient tenté d'obtenir l'interruption des travaux de cette commission parlementaire. Essaye de bloquer des procédures pénales en cours. Donc c'est une grande multinationale avec une belle état d'esprit, un bel état d'esprit, une belle état d'âme. Là aussi, il y a le cœur, la main sur le cœur, pas le cœur sur la main. Je vous rappelle aussi que le site de la Mayenne a, en toute discrétion, redémarré. Ouais. Alors, ça a été réouvert. Les machines ont été remises en marche. Il s'agit de reprendre la production. D'ici peu, on nous annonce ça d'ici l'été. Mais l'important quand même, chez Lactalis, c'est à retenir une chose, la discrétion. Tout est fait en discrétion. Nous, on appelle ça la non-transparence, de la propagande malsaine. Tout ça pour nous vendre des produits, rappelons-le quand même. Il n'a pas fini, je pense, monsieur Beignet, d'avoir cette commission et tous les autres sur le dos. Mais en tout cas, voilà, c'était intéressant quand même que pour une fois, les politiques fassent quelque chose d'intelligent et d'intéressant. Voilà. Alors, vous pouvez aller sur le site par exemple de Ouest France, qui est l'un des médias qui reprend le mieux ce que je viens de vous citer d'une manière beaucoup plus longue. C'est un de ceux qui ramène le mieux les propos de cette commission et de tout ce qui s'y est dit. Voilà.
Alors on va rester dans les profiteurs, on va aller du côté d'Yves Rocher et d'Yves Rocher en Turquie.
Il y a longtemps qu'on n'a pas parlé d'Yves Rocher. Donc.
Ouais. Puisqu'il y a eu manifestation, recours juridique et piquet devant une usine, ça fait 3 semaines que ça dure, une usine de l'entreprise Kozan Cosmetic Sanayi, donc une usine turque, qui travaille en fait pour l'enseigne Flormar, qui est détenue par, c'est ça ce qui est beau dans le capitalisme, par Yves Rocher depuis 2012. Donc c'est bien de Yves Rocher dont il est question. Alors, les piquets de grève, hein, qui sont devant cette usine, disent des choses assez sympathiques, puisqu'elles ont de l'humour. J'ai dit elles, parce que c'est majoritairement des femmes, hein, qui travaillent dans cette usine, et qui vont subir les foudres du patronat. Notamment, il y a un slogan qui dit « Ce n'est pas le maquillage, mais la résistance qui embellit ». C'est une belle phrase, effectivement. Donc voilà, c'est une entreprise donc qui fabrique des crèmes cosmétiques pour le marché intérieur turc et aussi pour l'exportation. Alors depuis 3 semaines, hein, que durent ces manifestations, et ben ça bouge pas beaucoup, ou alors en tout cas ça bouge pas dans le bon sens. Donc je vais revenir un petit peu sur les faits. Ça a commencé au printemps. Alors c'est un syndicat qui s'appelle le syndicat de la cheminée, qui s'appelle Petrol İş, qui est membre de la confédération dite réformiste turque İş, qui mène une campagne d'affiliation des ouvriers et des ouvrières de cette usine qui se situe à Gebze, je sais pas si ça se prononce comme ça, à 30 km d'Istanbul. C'est un gros bassin industriel où il y a pas mal de multinationales et d'entreprises et surtout d'usines. Objectif du syndicat, devenir représentatif pour pouvoir ensuite entamer des négociations collectives avec l'entreprise, la fameuse entreprise, c'est-à-dire Kozan Cosmetic Sanayi. Puisque ils avaient déjà constaté que les payes étaient faibles, les conditions de travail étaient indignes, grosso modo, c'était un peu difficile pour les salariés. Alors, en Turquie, c'est un peu compliqué pour les syndicats. Pour obtenir sa reconnaissance, un syndicat doit remporter la majorité des votes des salariés. la majorité, puis être certifié par le ministère du Travail. Donc il y a eu une campagne d'implantation de cette société, de ce syndicat, pour pouvoir gagner les élections. Le syndicat Patrol-IS donc, obtient enfin son agrément le 3 avril, puis contacte, puisque maintenant ils sont représentatifs, ils contactent la direction de l'entreprise, donc COSAM Cosmétique Sanaï, pour entamer des discussions sur les conditions de travail et sur les salaires. Et, du coup, réaction de l'entreprise. Alors, une procédure d'abord, devant les tribunaux pour contester l'agrément du syndicat, déjà. Ensuite, on va quand même marquer le coup, on licencie 14 personnes, membres ou proches du syndicat. Donc ça, c'est au début. Ensuite, ça continue. Il y a des rencontres, etc. Et des pressions sont mises, notamment par des instances internationales. L'entreprise le vit mal. Le 11 mai, elle vire à nouveau 6 salariés, puis 65 autres le 15 mai. Donc ça va très vite. Au 18 mai, on remet une couche. Et aujourd'hui, donc après le 18 mai, on est à 115 salariés qui ont été virés sur les 400 de l'entreprise. Tout simplement parce qu'ils étaient soit syndiqués, soit ils avaient donné un avis qui soutenait le syndicat. Donc c'est pas mal. Donc ces 115, c'est elles et eux, on va dire, parce qu'il y a aussi des hommes, mais majoritairement des femmes, qui sont devant l'usine, qui manifestent et qui essayent de faire changer les choses. Alors ça dure depuis 3 semaines, mais il n'y a pas de démotivation. Il y a aussi des actions juridiques de la part des salariés contre l'entreprise. Le problème, et c'est un peu comme chez nous, c'est que quand on passe devant la justice, c'est long. Et entre-temps, les salariés, ils n'ont pas de travail. Alors, même s'ils gagnent devant le tribunal, il y a peu de chances qu'ils soient réintégrés, puisque l'entreprise va sûrement choisir de payer une indemnité, donner une obole, mais ça n'ira pas plus loin. Donc voilà. Alors, il y a aussi des gens, mal intentionnés, me direz-vous, qui sont allés questionner la maison mère, le groupe Yves Rocher. Le groupe Yves Rocher n'a pas répondu, vraisemblablement, il ferme sa gueule. Alors pas tout à fait, ils ont fait un tweet quand même, parce qu'on répond par un tweet dans le monde moderne, en disant que c'est... En grosso modo, ils disent « Ah non, mais attendez, nous c'est Yves Rocher, là-bas ça s'appelle COSAM Cosmétique Sanaï, c'est donc pas directement nous. » Sauf qu'en fait, ça fait partie du groupe Yves Rocher, mais là, on botte en touche du côté de la multinationale. Donc voilà. Et il y a eu un appel des ouvriers et des ouvrières virés de cette entreprise appartenant au groupe Yves Rocher de boycotter les produits de la marque Yves Rocher. C'est le fleuron de ce groupe Rocher, là, un groupe important, et qui est bien connu en France, parce que c'est une grosse entreprise d'ici. Donc voilà, c'était pour parler un petit peu de produits d'Yves Rocher.
Alors, j'ai choisi ce soir de vous parler d'un ouvrage japonais qui est paru dans les années 90 au Japon, plus récemment
en France,
il a été traduit donc chez Babel Actes Sud, on trouve ça en poche, qui coûte pas trop cher, voilà, ça c'est fait. Il s'agit de La prophétie de la belle de Keigo Higashino. Alors pourquoi j'ai choisi ce livre? Bon, d'abord parce qu'on l'a lu tous les deux et que c'est toujours bien quand on peut vous parler de culture ou de spectacle ensemble, c'est bien plus agréable. Et puis parce que je voulais quand même célébrer, fêter la réaction en chaîne, la première réaction en chaîne, et donc le démarrage de l'EPR chinois de Taishan. Ah. Il paraît que ça s'est fait hier et que EDF est content. Donc je me suis dit, célébrons, soyons heureux et heureuses avec EDF.
Parce que tu veux dire que le livre dont tu parles a un lien avec EDF ?
Et non, c'est un lien avec le nucléaire. Ah, et oui. C'est ça qui est tout à fait intéressant. Alors ce qui est intéressant dans cet ouvrage, c'est qu'il a été écrit bien avant Fukushima, bien avant des réflexions que nous avons sur ce 21e siècle contre le nucléaire. Donc c'est aussi intéressant de se reporter en arrière. Ce que moi j'aime aussi avec cet auteur japonais, Keigo Higashino, c'est qu'à la base, il était ingénieur. Il a 60 ans, voilà, pour vous cadrer un petit peu le bonhomme. Il était ingénieur, donc il a une approche de la technique qui se ressent évidemment dans cet ouvrage. Il écrit plein de bouquins qui sont traduits plutôt dans le genre policier.
Oui, alors que là, c'est pas vraiment policier, c'est plus
ça l'est pas.
Un polar.
Alors, moi je trouve que c'est pas un polar, en tout cas c'est certainement pas un thriller à la manière de Hollywood, hein. Ça c'est aussi ça qui est bien. Et je trouve qu'on est plus finalement sur... Je suis même pas sûre que moi j'y donnerais le nom polar, je trouve que c'est un très beau roman. Alors il y a des parties très techniques à l'intérieur qui nous expliquent le nucléaire, ça peut être un peu ennuyeux si ça, vous y connaissez rien, mais moi je trouve que justement si vous n'y connaissez rien, c'est un très bon moyen d'apprendre, parce que c'est à l'intérieur d'un roman.
Donc l'histoire, c'est...
L'histoire.
Une tentative d'attentat.
Oui, alors l'histoire, c'est deux ingénieurs qui se rendent sur leur lieu de travail, Nishiki Heavy Industry, qui est un lieu qui fabrique un tout nouvel hélicoptère. Le summum pour le Japon qui se voit enfin doté d'un appareil militaire digne de ce nom. Cet hélicoptère doit être livré à l'agence de défense du Japon. Et évidemment, toutes les familles sont là pour cette belle démonstration, puisque non seulement c'est livré, mais en plus... l'hélicoptère est mis en avant, il y a une démonstration et tout, et il s'avère que on va pas tout vous raconter, on
mais
va
l'hélicoptère
garder,
est volé
et se retrouve déplacé, où ça ?
Au-dessus d'une centrale nucléaire.
Au-dessous d'une centrale nucléaire, et donc...
Les voleurs menacent de faire tomber
l'hélico
sur la centrale nucléaire.
Sur la centrale nucléaire. Et donc c'est à partir de ce petit synopsis dont on essaie de pas trop vous raconter des choses que Keigo Higashino va construire une démonstration plutôt anti-nucléaire, il faut bien le dire.
Oui, parce que les méchants, c'est quand même ceux qui détournent et qui sont... Parce que c'est des militants anti-nucléaires en fait.
Mais en fait, je voudrais bien que tu racontes pas tout, mais que tu le fasses quand même. C'est-à-dire qu'il faut que tu arrives à être subtil, c'est compliqué.
Les méchants, c'est quand même les anti-nucléaires qui détournent le truc, etc. Sauf qu'en fait, tout le roman révèle le rapport problématique du Japon, c'était à fond Fukushima,
ouais.
Que ben on tait, puisque le but c'est de faire parler du risque nucléaire, un peu comme chez nous le fait Greenpeace finalement, avec
fait.
Des actions qui sont pas de cet ordre-là, mais qui s'en rapprochent dans l'idée, c'est-à-dire de montrer la vulnérabilité des centrales. Et du coup, on découvre que les Japonais étaient pas au courant, et c'est le but en fait de ces pseudo-terroristes qui veulent faire comprendre à la population qu'on leur ment depuis des années sur le nucléaire et choisissent certains moyens un peu violents et radicaux, mais le but c'est de faire ça. Il y a toute une histoire, on découvre pas mal de choses sur le Japon et sur le rapport au nucléaire quand même, hein. C'est vraiment ça qui est intéressant dans ce livre. Et puis bon, après c'est une sorte de thriller quand même, hein. Moi, on suit bien l'évolution, on sait pas qui c'est au début, enfin voilà, il y a un vrai suspense.
Oui, parce qu'il y a deux histoires dedans, c'est à la fois de savoir effectivement qui menace le Japon en voulant faire tomber cet hélico sur une centrale nucléaire. Est-ce que ça va arriver, hein? Est-ce que ça peut se passer? Et puis, comment réagissent les autorités japonaises, les autorités de la centrale? Et finalement, ça démontre aussi un petit peu ça, c'est qu'à chaque fois, est-ce qu'on est vraiment préparé? Tout le monde nous dit toujours, dans les pro-nucléaires, on est préparé. Sauf qu'a priori, on l'est pas. Hein, en tout cas, nous, on en est persuadés. Et donc, il y a toujours cette grande... Là, je vous dévoile rien dans ce qui peut se passer, mais est-ce que si le machin, il tombe... un millimètre à droite ou un millimètre à gauche, est-ce que ça a des conséquences un petit peu différentes, hein, par rapport au dôme de cette centrale? Est-ce que on a prévu la chose? Est-ce que ça va se fissurer, se casser? Vous voyez, et tout ça, en fait, ils ont pas vraiment prévu, en fait, les autorités japonaises qui ont mis ces centrales en place, les choses. Et donc, c'est un peu du mensonge et de la propagande, du jeu aussi.
Ouais. Hein, mais c'est intéressant parce qu'on voit, nous, on connaît très bien le système nucléaire avec tous les mensonges, hein, de Framatome, d'Areva par la suite. On donne rien, on donne pas d'informations aux populations, on fait semblant que c'est sûr, etc. Et ben, en fait, c'est exactement la même chose au Japon et c'est la même problématique qui apparaît tout au long du roman. C'est qu'en fait, l'industrie nucléaire, c'est une industrie du mensonge, elle n'a jamais donné les vraies infos, et elle a acheté les populations parce que ça fait rentrer de l'argent les centrales nucléaires, exactement comme en France. Du coup, on se rend compte que c'est vraiment très très proche et que peut-être toutes les entreprises nucléaires ont cette technique du mensonge, de rien dire, de cacher les choses.
Oui, parce que là c'est vraiment intéressant aussi, c'est que alors, il va jamais stigmatiser des gens, je trouve, dans son roman, mais il montre surtout ceux et celles qui n'ont pas d'avis. Et ça, je trouve ça vraiment bien, parce que finalement, c'est un peu ce qui se passe chez nous, hein. C'est cette masse silencieuse qui ne pense rien, qui n'a d'avis sur rien, parce que finalement, bon, bah, tant qu'il y a la clim, hein, et que le frigo il marche, bah, pourquoi se poser des questions? Donc, je trouve qu'il s'attache aussi beaucoup à cette question-là. Alors, ce qui est intéressant, moi aussi, qui me plaît beaucoup, c'est que, bah, techniquement, c'est un autre siècle, on est dans une autre dimension, donc on nous explique c'est quoi un GPS, on nous explique des petites problématiques sur les ordinateurs, dont on va les chercher. Et donc, c'est marrant, comme aussi, on a une évolution technologique très rapide, mais ça rend pas pour autant le roman vieillot, c'est juste que c'est une autre époque. Donc, il y a des problématiques qui se posent pas de la même manière dans la recherche. recherche un petit peu polar que tu définissais tout à l'heure. Moi, je trouve que c'est un roman qui est militant, mais sans pour autant être noir ou blanc. C'est-à-dire qu'on ne nous tape pas dessus à coups de gros, vous voyez, lasso pour nous dire il faut penser comme ça. On tape pas avec un lasso, c'est plutôt qu'un fouet. Hein. Pour nous dire il faut penser comme ça, il faut être anti-nucléaire. Et pourtant, c'est au final cette démonstration que nous fait Keigo Higashino sur la dangerosité de toutes ces centrales partout dans le monde, parce qu'il parle aussi de ce qui se passe ailleurs. Il parle de Super Phoenix, par exemple, dans son ouvrage. Donc,
à l'époque, Super Phoenix,
c'est assez visionnaire.
Pas arrêté.
Et voilà.
France,
et donc, c'est assez visionnaire parce qu'il se pose les bonnes questions bien avant Fukushima. Et on s'aperçoit qu'au moment de Fukushima, d'ailleurs, les autorités japonaises n'ont pas su réagir, alors que pourtant, il y a des gens qui écrivent des romans quand même sur le nucléaire et contre le nucléaire. Donc, moi, je vous invite à lire, à relire la prophétie de la paix de Keigo, de l'abeille. L'abeille, c'est l'hélicoptère. La prophétie de l'abeille de Keigo Higashino, c'est donc chez Babel Actes Sud. C'est à lire et à relire et à prêter, voilà.
Et c'est un auteur sympa.
C'est un auteur, sinon, oui, qui a très connu au Japon, oui, bien évidemment, et qui a quand même été pas mal traduit en France.
Oui. On va parler un peu d'énergie et environnement à la suite de ce livre anti-nucléaire. Qui se présente pas comme ça, mais qui l'est au final. Et on va parler de la bonne nouvelle. On en a déjà parlé plusieurs fois, c'est souvent l'accusation d'ailleurs des anti-nucléaires, c'est de dire, regardez, l'Allemagne, ils sont sortis du nucléaire, mais en échange de ça, ils ont énormément de charbon. Et donc, ils émettent beaucoup de CO2. Donc, on rappelle qu'il n'y a pas de lien, en fait, entre la sortie du nucléaire et la présence du charbon, puisque la sortie du nucléaire de l'Allemagne, qui est une sortie effective, maintenant, ils ont remplacé la production d'électricité d'origine nucléaire par du renouvelable. Mais ils n'ont rien fait sur le charbon. Ça n'a pas augmenté le charbon, mais ils n'ont rien fait sur le charbon. Alors qu'ils en avaient effectivement beaucoup, aux alentours de 40%. Aujourd'hui, une commission s'est réunie. Une commission est composée pour pouvoir se réunir d'ici la fin de l'année pour sortir l'Allemagne du charbon. Et c'est très très compliqué en Allemagne de sortir du charbon. Puisqu'il a fallu des mois pour arriver à constituer la commission. C'est un sujet très sensible. Du coup, il y aura un peu tout le monde, tous les partis. Alors, pour tous les partis, il y aura des conservateurs, des sociaux-démocrates, des verts, des écolos, des gens du ministère, des gens des landers, c'est-à-dire des régions. Il y aura des scientifiques, il y aura des gens qui soutiennent les mineurs, des gens de l'industrie, du patronat, des syndicalistes. Voilà, il y aura un peu tout le monde. Ils sont arrivés à la constituer et le but, c'est de sortir. Et le problème, c'est que ça ne va pas être facile. L'Allemagne n'a pas le choix, puisque d'ici la COP24, en 2020, l'Allemagne doit sortir de ce charbon. Mais le problème, c'est que le charbon, ça représente beaucoup en Allemagne. Ça représente pas mal de travail, puisqu'il y a 32 000 personnes qui travaillent dans ces entreprises liées au charbon. Donc, ils ont des mines, notamment de charbon très bas de gamme, qui s'appelle la lignite, dont ils se servent pas mal. Et puis, il y a les gens qui travaillent dans les centrales. À savoir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de gens qui travaillent dans la production d'énergie électrique propre que dans le charbon. C'est-à-dire que l'Allemagne a montré aussi que, oui, là, il va y avoir une transition énergétique aussi au niveau du charbon. Oui, ça ne va pas être facile, mais potentiellement, il y aura plus de boulot derrière. On va peut-être tuer, personne, mais 32 000 emplois, mais ça va en recréer beaucoup. Ça, on le sait, ça marche toujours. Mais ça va être compliqué. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que c'est parti. Et que l'Allemagne va pouvoir enfin mettre en œuvre, enfin déjà négocier une politique de sortie du charbon et la mettre en œuvre. Il faut savoir que l'Allemagne, comme la France, comme pas mal de pays, ont des pays dits scientifiquement ultra développés, technologiquement très en avance, ont été ridiculisés par des pays dits arriérés, technologiquement. Le Portugal l'a démontré il n'y a pas longtemps, en produisant sur un mois plus d'électricité, enfin que de l'électricité renouvelable. Le Costa Rica l'a montré aussi, le montre depuis plusieurs années. Il y a aussi un enjeu scientifique, technologique et un peu idéologique de dire oui, nous aussi on est capable. Ces pays-là que tout le monde méprise là dans ces pays soi-disant plus développés, alors que c'est pas vrai du coup, puisque là le Costa Rica et le Portugal ont démontré qu'en fait non, ils étaient aussi bons que les autres. Il fallait juste investir dans le bon truc. Voilà. Donc voilà, ça a peut-être poussé l'Allemagne à faire des efforts. La France, pas du tout, parce que les gouvernements sont inintelligents et pas scientifiques. C'est un peu le problème, notamment de Macron, qui est pas du tout un scientifique, pas un rationnel. Et du coup, il a une politique pro-nucléaire, alors que c'est à l'inverse du cours de l'histoire actuelle. Donc voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle. L'autre nouvelle qui est sortie sur l'environnement, qui n'est pas une bonne, c'est le retour du fils de la vengeance de l'hydrogène. Donc, tous les 5 ans, on nous reparle de l'hydrogène. Alors là, c'est le cran du dessus, puisqu'il y a pas mal de constructeurs. On a vu Hyundai, Toyota et Honda qui ont dévoilé leur première voiture fonctionnant à l'hydrogène. Donc en fait, c'est des voitures électriques, mais au lieu de stocker l'électricité dans une batterie, on stocke l'électricité sous forme d'hydrogène. En fait, on a de l'hydrogène, donc c'est un gaz qui est sous pression dans la voiture. Et ensuite, on retransforme cet hydrogène sous la forme de gaz, donc c'est H2, hein, si vous vous rappelez des cours du collège ou du lycée au niveau des gaz, avec une pile à combustible. Et la pile à combustible va transformer cet hydrogène en électricité, en émettant un petit peu de vapeur d'eau. Donc, sans aucune pollution locale. Voilà, c'est un peu une sorte de mythologie que la future technologie du déplacement individuel, c'est-à-dire de la voiture, de la bagnole, ça va être l'hydrogène. Et il y a une propagande qui est revenue. Il faut dire qu'elle est portée par Nicolas Hulot, puisque le vendredi dernier, il a annoncé le plan gouvernemental hydrogène, avec 100 millions d'euros d'argent public, le vôtre, le nôtre, qui, au lieu d'être mis dans l'éducation, est mis dans l'hydrogène. On les remerciera au passage. Et il a dit, je cite, et vous allez comprendre l'ampleur du désastre, en fait, il a dit, sur l'hydrogène, ma religion est faite. Ça signifie un truc qui est important, qui est dans la tête de ces politiques non scientifiques, c'est qu'en fait, ils reposent leur argumentaire sur des croyances. Donc, Hulot, on lui a fait croire, et il le croit lui-même, que l'hydrogène, c'est bien pour la production d'électricité, et notamment dans les voitures. Alors qu'il suffit qu'il se pose des questions. S'il était scientifique, il prendrait une feuille, il prendrait les différents éléments de la chaîne énergétique, il calculerait, je vais vous le faire en 30 secondes, ce que lui n'a pas été capable de faire, je vais vous l'expliquer en 30 secondes. Et c'est triste d'avoir ces croyances qui se mettent en place et qui servent d'argument à la place du discours scientifique. Alors pourquoi c'est pas rentable l'hydrogène ? En fait, vous imaginez. Alors, on va partir de l'électricité. Alors, pour fabriquer de l'hydrogène, on va partir de la fabrication parfaite, c'est-à-dire on part d'un truc bien au niveau de l'environnement, donc de l'électricité bio, c'est-à-dire faite par l'éolienne ou par les panneaux solaires. Cette électricité, on va s'en servir pour fabriquer de l'hydrogène. Comment on fait ? En fait, on fait de l'électrolyse de l'eau. Donc on casse la molécule d'eau, et la molécule d'eau, quand elle se casse, elle produit du H2 et du O, c'est-à-dire du gaz hydrogène et de l'oxygène. Donc là, on a déjà des rendements qui sont à peu près de 50-60%. Donc c'est déjà pas terrible. Hein. C'est-à-dire que la moitié de l'électricité que vous avez mis dedans est perdue en perte. Ensuite, cet hydrogène que vous avez créé avec l'électrolyse de l'eau, il faut la stocker. Donc là, à nouveau, des pertes. Notamment de chaleur, parce que quand on stocke, il faut compresser et ça chauffe et on perd sous forme de chaleur. Et ensuite, il faut retransformer cet hydrogène en électricité. Là, on a des rendements entre 50 et 70%. Au final, sur toute la chaîne, au maximum, si tout est optimisé, on a 20% de rendement. En gros, si vous achetez 100 kWh d'électricité pour votre voiture, vous n'en avez que 20 qui vont aller dans la voiture. Tout le reste est perdu en perte, puisque chaque fois, on a des transformations. Bien évidemment, il est plus intelligent de prendre cette électricité fabriquée par ces panneaux solaires et de la mettre directement dans des batteries. On a des pertes, mais qui sont bien moins importantes. Sauf que les batteries, ça n'intéresse pas, c'est un peu has-been, c'est compliqué, c'est lourd, etc. Et c'est cher, alors que les piles à hydrogène, c'est pas cher du tout, c'est pas vrai, c'est super cher. Bon, bref, c'est une aberration scientifique de faire tout ça. Donc voilà, ça prend 30 secondes de faire des calculs, vous regardez les trois rendements, vous les multipliez entre eux, puisque le rendement, ça se multiplie, et à la fin, vous avez 20%. Bon, je vous rappelle que le but de tout ça, c'est de sauver l'automobile. Parce que l'automobile, c'est une aberration. Si vous mettez deux personnes dedans, 140 kilos dans une automobile qui en fait en tout 1400, vous n'utilisez que 10% de l'énergie pour transporter les gens, parce que le but, c'est de transporter les gens. Donc, vous avez déjà un rendement merdique. En fait, le rendement de l'automobile, quel que soit le moteur, on est au maximum à 2% d'utilisation. Voilà. Pour transporter les personnes dedans. Et pas le reste. Donc c'est une aberration. Et le but de l'hydrogène et de toutes ces propagandes qui reviennent régulièrement là tous les 5 ans à peu près, c'est de sauver le transport individuel. Voilà, c'est ça. Et personne ne le dit parce qu'il est hypocrite, Nicolas Hulot comme les autres. Donc voilà. Donc bref, l'hydrogène aujourd'hui, c'est encore et toujours une arnaque. Il vaut mieux stocker directement l'électricité produite. Et alors je ne vous parle pas de la réalité puisqu'en fait, dans les faits, l'hydrogène n'est pas produit par l'électricité bio de l'éolienne. Hein. Elle, en fait, il n'y a que 4% de l'éolienne dans le monde aujourd'hui qui est produite par l'électrolyse de l'eau. Les 96 autres %, c'est tiré des hydrocarbures. Donc c'est comme le pétrole, du coup c'est aussi pourri, donc voilà, vous avez compris, c'est une arnaque. Et puis pour terminer, Scanu Info, petit scandale sanitaire, puisque on apprend, alors on avait déjà eu pas mal de chiffres dessus, mais là c'est, ça a l'air plus officiel, sur le chlordécone, là, c'est un, quelque chose qui tue les insectes, un insecticide, dirons-nous, pour utiliser les bons mots, qui empoisonne toutes les Antilles depuis des années, puisque 95% des Guadeloupéens et 92% des Martiniquais, donc des êtres humains, des hommes, des femmes, des enfants, sont contaminés avec cet insecticide quand on fait des analyses de leur sang. C'est énorme, vous imaginez ? C'est énorme. Pourtant, cette substance est interdite depuis 1990. Bon, il y a eu des exceptions dans les Antilles jusqu'en 93. En fait, c'est une enquête de Santé publique France, là, une agence gouvernementale, qui sera présentée officiellement en octobre prochain, qui a donné les infos, avec donc des taux qui dépassent de, en moyenne de 13 à 14 fois la norme acceptable, pour que ça ne joue pas sur la santé, et ça va sur certaines personnes jusqu'à 185 fois la norme. Alors on sait hein, les conséquences, puisque on a des doutes. Alors l'Organisation Mondiale de la Santé a classé le chlordécone dans les produits neurotoxiques, qui attaque la fertilité, enfin bon, qui augmente le nombre de naissances de prématurés. Bon, il y a plein d'autres choses sur les cancers de la prostate. La Martinique détient le record mondial des cancers de la prostate. C'est peut-être en lien, hein, dirons-nous. Il faut savoir qu'il y avait une étude scientifique qui avait commencé à être menée justement sur ça. Elle était abandonnée par les pouvoirs publics faute de financement. Donc on sent qu'il y a quand même un énorme tabou, c'est caché, tout ça. Et bon, voilà, on se fait avoir. En tout cas, ça sera révélé. Donc en octobre, il y aura à nouveau un débat, parce que pour l'instant, c'est très difficile pour les Guadeloupéens et les Martiniquais d'avoir un débat sur ce sujet-là. Et il y a une telle importance du patronat de la banane, une telle force du patronat de la banane.
Oui, parce que c'est depuis le départ, on aurait pu dire que c'était sur les plantations de bananes que ce produit a été utilisé. Et c'est pour ça que les habitants de ces territoires sont en particulier touchés. Voilà. S'il y avait eu de la banane chez nous, on serait touché là, aussi. En bas des pentes de la Croix-Rousse, on serait peut-être touché aussi.
On se quitte, puisque c'est la fin.
Bah ouais.
J'ai pas d'agenda.
Moi non plus. On va vous laisser avec la rediffusion normalement de Papillon ce soir, hein, qui est en alternance donc avec, vous le savez, avec l'émission La Petite Cuillère. Nous, on se retrouvera la semaine prochaine. Demain, vous avez une autre équipe, celle du vendredi, donc, pour le Canu Info du vendredi. Donc, tout ça est très logique chez nous.
Ouais. Et pour faire la jonction, un autre petit morceau de Marc Angeret, Plus de patron.
Yes!
Républicain, socialiste, compagnon radical, ultra, révolutionnaire, anarchiste, etc., etc. Aussi je vais dans tous les métingues, jamais je ne rate une réunion. Et je passe mon temps chez les manzingues, où je compresse la révolution. C'est vrai que je comprends pas grand chose à tout ce qu'ils disent les orateurs, mais je sais qu'ils parlent pour la bonne cause et qui tapent sur les exploiteurs. Pourvu qu'on chine le ministère, qu'on engueule ton mal et ton tort, et qu'on parle de tout foutre par terre, j'applaudis d'achat et de tort. C'est d'une simplicité biblique, d'abord faut plus de gouvernement, puis faut plus non plus de république, plus de sénat et plus de parlement, plus de salaud qui vit à sa guise, pendant que nous on a un mal de chien, plus de loi, plus d'armée, plus d'église, faut plus de tout ça, faut plus de rien. Alors c'est nous qui sera les maîtres, c'est nous qui fera ce que nous voudrons. Y aura plus de chef, plus de contre-maître, plus de directeur et plus de patron. Mais est-ce qu'on pourra tirer sa flemme? On fera tous les jours un lundi. Oui mais s'il y a plus de la transpem, qui fera la payotte samedi?